chers amis, cette soirée porte sur le sujet la gestion de notre temps. Comment est-ce que nous utilisons le temps que le Seigneur Jésus nous accorde chaque jour? Et j'aimerais commencer par la lecture de deux versets dans le prophète Agée, et on va lire d'autres passages pendant la soirée. Le prophète Agée, chapitre 1, les versets 2 à 4. Ainsi dit l'Éternel des armées, disant, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de la maison de l'Éternel pour la bâtir. Et la parole de l'Éternel vint par Agée le prophète, disant, est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée? Imaginez le suivant. Un jour, vous recevez une lettre. Une lettre de quelqu'un inconnu. Un homme très riche vous propose de faire un jeu. Et il dit le suivant. Cher ami, chaque jour, vous recevez 86 400 chefa par jour. Chaque matin, vous recevez ce montant. Vous pouvez faire n'importe quoi avec ce montant de temps, d'argent. Vous pouvez la dépenser comme vous voulez. Mais ce jeu a deux règles qui sont très importantes. Et il faut accepter ces deux règles. Premièrement, il faut que vous dépensiez ces montants d'argent chaque jour. Vous ne pouvez pas garder l'argent, vous ne pouvez pas l'épargner. Chaque matin, vous recevrez une nouvelle somme, mais vous ne pouvez pas garder le reste. S'il y a un reste, le reste est perdu. Le prochain matin vous donne une nouvelle occasion, mais ce qui n'a pas été dépensé est perdu. Et il y a une deuxième règle. Le riche homme qui vous a écrit cette lettre peut fixer le jour où le jeu est fixé et vous ne recevrez plus rien du tout. C'est absolument à lui de commencer et de finir ce jeu. Imaginons ce qu'on pourrait faire avec un tel montant d'argent. 86 400 chefa par jour. On pourrait faire un tas de choses, n'est-ce pas? On pourrait acheter n'importe quoi. Un champ, une maison, un vélo, un moto, des vêtements, des aliments, beaucoup de choses qu'on pourrait acheter. On pourrait aussi donner de l'argent aux autres. Peut-être on prend un stylo, un bout de papier et on commence à noter ce qu'on pourrait faire avec un tel montant d'argent que ce riche ami nous a proposé. Est-ce que c'est la réalité? Bien sûr, ce n'est pas la réalité. Personne n'a jamais fait quelque chose pareil. Mais d'un autre sens, c'est vraiment la réalité. Ce n'est pas un riche homme qui nous donne ce montant d'argent, Mes chers amis, c'est Dieu qui nous donne un tel montant de temps chaque jour. C'est 86 400 Chefa ne sont pas chefa, mais ce sont les secondes de chaque jour. Chaque jour, Dieu, le Créateur, nous offre la possibilité d'un tel montant de secondes pour les vivre. Chaque jour a ses 24 heures qu'on peut utiliser. Quand le jour est fini, le temps de cette journée sont passés. Ce temps ne revient jamais une autre fois. Le aujourd'hui est à nous. Et à minuit, le aujourd'hui est fini. Une nouvelle journée commence à 24 heures. Demain matin, une nouvelle occasion d'utiliser notre 24 heures, notre seconde que Dieu nous accorde chaque jour. Et la question se pose, que faisons-nous pendant le temps sur la terre que Dieu nous accorde? Le aujourd'hui appartient à nous. Nous ne savons pas s'il y aura un demain pour nous, pour toi, pour moi. Dieu peut mettre un fin à la vie de chacun de nous. Et la question qui reste, qu'avons-nous fait avec le temps, avec les heures, les minutes, les secondes de chaque jour que Dieu nous a accordé? La gestion du temps. Je pense que c'est un sujet très important pour chacun de nous. N'importe quel âge, femme et homme, frères et sœurs, pour nous tous, cette question se pose, que faisons-nous avec le temps que Dieu nous accorde, que Dieu nous donne chaque jour? Et j'aimerais partager ce soir 5 considérations importantes avec vous. La première considération, le premier point que j'aimerais présenter, c'est que le temps que Dieu nous donne est vraiment un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous offre chaque jour. C'est un don de Dieu, un des bons et parfaits dons que Dieu nous accorde. Dieu lui-même, il a créé le temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Le temps est lié à la création. Dieu a créé le temps, il a installé les jours. Jour et nuit ont été faits par notre Dieu. Il est le Créateur et comme Créateur, il nous donne ses 24 heures chaque jour. C'est un don de Dieu qui est absolument pour chacun de nous sans aucune différence. Entre nous, en général, il y a beaucoup de différences, n'est-ce pas? Notre âge est différent. Notre intelligence est différente. La couleur de notre peau est différente. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a ceux qui sont plus âgés. Il y a beaucoup de différences. Les ressources en général sont distribuées différemment. Mais il y a un don de Dieu absolument pareil pour chacun de nous. Ce sont les 24 heures que Dieu nous donne chaque jour. Il n'y a aucune différence. Chacun de nous a ses 24 heures par jour à la disposition. Et il se pose la question, que faisons-nous avec ce temps? Quelle est notre réaction? Quelle est notre réaction à ce Dieu, à ce don de Dieu? Si quelqu'un m'offre quelque chose comme cadeau, qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, c'est de dire merci. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour le don du temps que Dieu nous donne? C'est vraiment un cadeau. C'est quelque chose que Dieu met dans nos mains. Et il faut que nous soyons reconnaissants pour ce don de temps. Ce n'est pas naturel, ça ne vient pas de soi, c'est un don de Dieu. Mais il y a une deuxième réaction. Si Dieu nous donne quelque chose, cela est toujours lié à notre responsabilité. Le temps que Dieu nous donne est limité. Le temps n'est pas infini et il faut le employer avec prudence parce que Dieu nous donne une responsabilité. Chaque don de Dieu est lié à une responsabilité et aussi le don du temps est lié à notre responsabilité. Nous sommes responsables de ce que nous faisons avec les 24 heures de chaque jour que Dieu nous donne. Il y a une deuxième considération que j'aimerais partager avec vous, et c'est la considération que le temps de notre vie est limité et il n'est pas dans nos mains, mais dans les mains de Dieu. Mais une chose est certaine, le temps de notre vie est limité. J'aimerais lire un passage dans le livre de la Genèse, au chapitre 47. Genèse 47. C'est un vieillard, c'est Jacob, qui dit au verset 9, « Et Jacob dit au Pharaon, « Les jours des années de mon séjournement sont 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais. » Ils ont été courts. C'est ce que Jacob dit après une longue vie de 130 années. Nous n'arrivons pas à 130 années. Peut-être à 60, 70, 80. Court, dit Jacob. La vie est courte. N'oublions jamais que le temps que Dieu nous donne est limité. C'est comme un vent qui passe et la vie est à un terme. Il ne faut jamais l'oublier. Dans la lumière de l'éternité, chaque vie est une vie très, très courte, n'est-ce pas? Notre temps est dans la main de Dieu. C'est ce que Moïse dit au psaume 90. Dieu est celui qui met ou qui rend le terme à notre vie. Il ne faut jamais le oublier. Si nous avons cette deuxième considération, que la vie est courte, limitée et pas dans nos mains, quelle est donc notre réaction? La réaction est la suivante. Il faut utiliser le temps que Dieu nous donne. Les jeunes doivent utiliser le temps que Dieu donne aux jeunes. Les adultes doivent utiliser le temps que Dieu accorde aux adultes. Chacun de nous a la responsabilité de faire ce qu'il peut faire à son âge. Nous avons un verset dans l'Ancien Testament, dans le livre du prédicateur, chapitre 3, verset 1. Il dit, il y a une saison où il y a un temps pour tout. Il y a des choses qu'on peut bien faire quand on est jeune. Il y a des choses qu'on peut bien faire quand on est une femme. Il y a des choses qu'on peut bien faire quand on est un homme. Utilisez le temps, utilisez les ressources que Dieu nous donne. Et il est aussi important de ne pas seulement utiliser le temps, mais de aussi discerner le temps. Que Dieu nous accorde l'intelligence et le discernement du temps que Dieu nous accorde. Il y a une troisième considération que j'aimerais partager avec vous. Le temps que Dieu nous donne est l'occasion d'être sauvé. Dieu donne à chacun de nous du temps pour être sauvé. L'apôtre Paul parle dans la deuxième épître aux Corinthiens du temps du salut. Il y a un temps du salut. Il y a le temps où l'Évangile vient à l'oreille, où l'Évangile vient à nos cœurs. Dieu nous a donné le temps afin que nous acceptions le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Et quelle est notre réaction? J'aimerais de nouveau poser cette question. Quelle est notre réponse? Quelle est notre réaction à l'offre de Dieu, à son offre du temps pour être sauvé? Dieu avait dit à Lot, vous vous rappelez, « Hâte-toi pour être sauvé. Aujourd'hui est le temps du salut. » Je ne sais pas, peut-être il y a quelqu'un ici ce soir qui n'est pas encore sauvé, qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, qui ne peut pas dire que le Seigneur Jésus est mort pour moi, qui ne peut pas dire le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour toi. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, cette offre vient de nouveau à ton cœur. Il faut accepter le Seigneur Jésus comme le Sauveur. Je répète, le demain n'est pas à nous. Le aujourd'hui, le maintenant, le temps que Dieu te donne maintenant, aujourd'hui, c'est le temps pour être sauvé. Les enfants, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme sauveur, accepte-le aujourd'hui. Les jeunes, les adultes, s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, qui n'a pas donné sa vie à lui, fais-le aujourd'hui. N'hésitez pas, il ne faut pas endurcir le cœur. Non, il faut ouvrir le cœur afin que le Seigneur Jésus nous donne la paix et la joie. Le temps, un don de Dieu pour nous, pour être sauvés. Dieu nous appelle aujourd'hui. S'il appelle de nouveau demain, personne ne le sait. Accepte Jésus aujourd'hui comme sauveur. Utilisez le temps que Dieu te donne pour être sauvé. Il y a une quatrième considération. Le temps que Dieu nous donne, ces 24 heures par jour, sont une occasion journalière d'avoir la communion avec Dieu, personnellement et collectivement. Nous pouvons avoir communion avec Dieu. Dieu nous a sauvés, nous sommes venus auprès du Seigneur Jésus. Il veut nous utiliser, nous employer dans son service, mais tout d'abord, il est important que nous ayons la communion avec lui chaque jour. Il faut les moments de tranquillité en lisant la parole de Dieu et en priant. La communion avec Dieu, la communion pratique avec Dieu s'exprime dans ces deux domaines. Tout d'abord, que Dieu parle à nous, et deuxièmement, que nous parlons à Dieu. Comment est-ce que Dieu parle à nous? Il parle à nous par sa parole. Et il faut utiliser les 24 heures par jour, une partie, pour lire la parole de Dieu afin que Dieu puisse parler à nous. Et il faut aussi utiliser le temps que Dieu nous donne chaque jour pour parler avec lui, cela veut dire pour prier. Il faut lire la parole de Dieu. C'est la première expression de la communion que nous avons avec Dieu et avec le Seigneur Jésus. J'aimerais lire un verset dans le premier livre de Samuel, chapitre 9. Samuel chapitre 9, ce sont les mots de Samuel à Saül, la dernière partie de ce verset 27. « Et toi, dit Samuel, arrête-toi maintenant et je te ferai entendre la parole de Dieu. Arrête-toi maintenant et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Pour lire la parole de Dieu, pour entendre la parole de Dieu, il faut s'arrêter. Il faut avoir un peu de temps. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, peut-être 30 minutes, peut-être une heure, ça dépend, mais il faut que nous nous arrêtions pour que Dieu puisse parler à nous par sa parole. J'espère que nous tous, nous connaissons cet bel exemple du Nouveau Testament. Nous avons chanté hier, je crois que c'était hier ou ce matin, de Marie de Béthanie. Elle était assise au pied du Seigneur Jésus. Elle s'est arrêtée, n'est-ce pas? Elle a pris du temps pour s'asseoir au pied du Seigneur Jésus pour écouter la parole du Seigneur Jésus. Et chers amis, c'est tellement important pour nous que nous réservions un certain temps chaque jour pour lire la Bible. Mes chers jeunes amis, il faut le faire régulièrement. Lisez un passage dans le livre des livres, la parole de Dieu, le meilleur livre qui existe. C'est la vérité de Dieu, c'est Dieu lui-même qui veut parler à nous et il faut prendre du temps pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Quelle est notre réaction? Le jeune Samuel qui avait dit à Saoul de s'arrêter, le jeune Samuel nous donne un bel exemple. Quand Dieu l'a appelé, il avait dit, « Seigneur, parle, ton serviteur écoute. » C'est une belle réaction, n'est-ce pas? « Seigneur, parle, ton serviteur écoute. » Des fois, nous disons plutôt, « Seigneur, écoute, ton serviteur parle. » Mais non, c'est Dieu qui parle et ce sont nous qui devraient écouter. Il faut vraiment prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Deuxième expression de cette communion que nous avons, c'est la prière. Par la parole, Dieu parle à nous. Et c'est très important. Par la prière, nous parlons à Dieu. Et cela est aussi très important. La parole de Dieu et la prière vont toujours ensemble. Il faut de même avoir du temps pour prier. Si nous lisons les épîtres de l'apôtre Paul, comme aussi dans l'épître aux Philippiens, nous voyons que l'apôtre Paul était un exemple, un bon exemple. Il était un homme de prière. Il a souvent prié. Il a exprimé les actions de grâce, la reconnaissance, mais il a aussi fait des supplications. Et voilà les deux côtés de la prière. Les actions de grâce, la reconnaissance, l'adoration d'un côté, les supplications d'autre côté. Les deux sont importants, les deux sont nécessaires pour nous. L'apôtre Paul était un homme de prière. Le Seigneur Jésus lui-même, d'ailleurs, il est le parfait exemple. Comme homme sur la terre, il était l'homme de prière, sans pareil. Si nous lisons l'évangile selon Luc, où le Seigneur Jésus nous est présenté comme homme parfait, nous le trouvons souvent dans la prière. Il a même prié une nuit, toute la nuit il avait prié. J'ai jamais prié toute une nuit. Vous l'avez fait peut-être, moi pas encore. Mais le Seigneur Jésus, il l'a fait. Il a prié, il a ouvert son cœur pour s'adresser à son Dieu, lui le Seigneur Jésus, comme homme parfait. Et dans les épîtres, nous trouvons des encouragements à la prière. Souvent nous les trouvons. Paul dit par exemple « prier sans cesse ». Cela ne veut pas dire que nous prions 24 heures par jour, c'est impossible, mais sans cesse, cela veut dire fais-le régulièrement. Il est important que nous lisons la parole de Dieu régulièrement et que nous prions régulièrement. Persévérer dans la prière, c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Et nous pouvons le faire personnellement, nous pouvons le faire en couple et nous pouvons le faire aussi ensemble quand nous sommes réunis en assemblée. Ça serait peut-être un peu le sujet de notre frère demain soir. Il y a une cinquième considération. Le temps que Dieu nous donne est le temps pour travailler pour lui. Nous avons entendu cet après-midi que Dieu n'a pas besoin de nous. Et c'est absolument correct. Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de toi. Mais néanmoins, le Seigneur Jésus veut nous utiliser dans son service. Il a pour chacun de nous, sœurs et frères, jeunes et âgés, pour chacun de nous, il a quelque chose à faire. L'œuvre du Seigneur est quelque chose qui nous concerne tous. Pas seulement les frères, pas seulement un certain groupe de frères. Non, l'œuvre du Seigneur Jésus nous occupe tous. Nous tous, nous avons affaire avec l'œuvre du Seigneur. Et le temps que Dieu nous donne est une occasion de servir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même avait dit à ses serviteurs, trafiquez, travaillez jusqu'au moment où je viens, jusqu'au moment où la vie est finie. Travaillez, veillez jusqu'à ce que je vienne, mais aussi travaillez jusqu'à ce que je vienne. Chers amis, chaque jour que Dieu nous donne est une nouvelle occasion de servir le Seigneur Jésus, dans la mesure qu'il nous donne des occasions et des possibilités, mais il faut les utiliser. Dans l'œuvre du Seigneur, dans le service, j'aimerais d'abord lire un verset dans la première épître aux Corinthiens qui nous dit que l'œuvre est quelque chose qui nous concerne tous. 1 Corinthiens 15, le dernier verset. Paul s'adresse aux Corinthiens et il dit ainsi, mes frères bien-aimés, les sœurs y sont incluses, soyez fermes, irébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Abondez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas dit aux frères qui travaillent à temps plein. C'est dit à tous les Corinthiens, les jeunes, les âgés, les sœurs et les frères. Nous tous, nous devons abonder dans l'œuvre du Seigneur. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire pour lui. Et chaque jour nous donne une nouvelle occasion. J'aimerais lire un verset de nouveau dans le livre de l'Ecclésiaste, le prédicateur. Chapitre 11. Chapitre 11, verset 6. Ecclésiaste 11, verset 6. Le matin sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main. Le matin peut être comparé à la jeunesse. Quand nous sommes jeunes, il faut s'aimer la semence, il faut trafiquer, il faut travailler, il faut être actif. Mais le soir, quand nous sommes devenus plus âgés, qu'est-ce qu'il est dit? Le soir, ne laisse pas reposer ta main. Il n'est jamais trop tôt pour servir le Seigneur Jésus. On n'est jamais trop jeune pour servir le Seigneur Jésus. Mais aussi, il n'est pas trop tard de servir le Seigneur Jésus. Pas trop tard, dans le sens où nous sommes encore sur la terre. On ne peut pas être trop vieux pour servir le Seigneur Jésus. Et dans le service pour le Seigneur Jésus, dans l'œuvre du Seigneur Jésus, il y a deux grands côtés qu'on peut distinguer. Le premier côté, c'est l'Évangile, et le deuxième côté, c'est le service dans le cadre du peuple de Dieu. Cet après-midi, nous avons été occupés avec l'importance de rendre un témoignage envers le monde. Le temps que Dieu nous donne est une occasion d'aller et prêcher l'Évangile, de laisser luire la lumière du témoignage. Il ne faut pas manquer le temps, il ne faut pas rater le temps, mais il faut acheter le temps. C'est ce que le Nouveau Testament nous dit, acheter le temps, utiliser le temps que Dieu vous donne pour que l'Évangile soit prêché dans le monde. Cela est tellement important. J'aimerais lire un verset dans l'Épître aux Colossiens. Colossiens chapitre 4, verset 5. Marchez dans la sagesse envers ceux de dehors, ce sont les incrédules. Saisissons l'occasion. L'occasion que Dieu nous donne aujourd'hui. Pendant les 24 heures de aujourd'hui, quelle est notre réaction? Quelle est notre réaction? Aujourd'hui est le jour de la bonne nouvelle. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir honte, mais il faut vraiment être un témoignage vivant pour le Seigneur Jésus, comme nous l'avons étudié et entendu cet après-midi. Mais le deuxième côté est aussi important. Il y a aussi un travail, une œuvre dans la maison de Dieu. L'Évangile, c'est en dehors, mais il y a aussi le service dedans, dans la maison, parmi la famille de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Cet après-midi, j'ai déjà dit que l'apôtre Paul était et le serviteur de l'Évangile et un serviteur de l'Assemblée. Alors, ces deux côtés sont là, ces deux côtés sont très importants. J'aimerais lire un verset dans l'Épître aux Galates. Galates, chapitre 4, verset 18. « Mais il est bon d'être toujours zélé pour le bien. Il est bon d'être toujours zélé pour le bien. » Le bien du peuple de Dieu. Il y a des besoins de nos enfants. Il faut s'en occuper. Il y a le besoin de ceux qui sont malades. Il faut s'en occuper. Il y a les besoins Des couples qui ont peut-être des problèmes, il faut s'en occuper. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous venons de lire ces versets dans le prophète Agé. Et le problème dans le prophète Agé était que la maison de Dieu était vaste. Personne ne s'est pas occupé de la maison de Dieu. Chacun a été occupé de sa propre maison, mais pas de la maison de Dieu. Il y a beaucoup de faire dans la famille de Dieu, dans les assemblées locales. Utilisons le temps que Dieu nous donne. Quel est le résumé? Que faisons-nous avec le temps que Dieu nous donne? Il y a deux possibilités, deux fausses réactions, je dirais. Deux fausses réactions. La première réaction fausse, c'est que nous tuons le temps que Dieu nous donne. Nous pouvons tuer la plupart des 24 heures que Dieu nous donne chaque jour. C'est la paresse, n'est-ce pas? On peut être paresseux, on ne fait rien, on tue ou écrase le temps que Dieu nous donne. N'oublions pas, le temps est un don de Dieu et il n'est pas permis de simplement écraser ou tuer le temps, ce don précieux que Dieu nous donne. La paresse est quelque chose que Dieu n'aime pas du tout. Si nous lisons les Proverbes, nous trouvons beaucoup de versets sur la paresse. Dieu n'aime pas ceux qui sont paresseux. Il aime ceux qui sont travailleux, qui sont zélés, qui sont attachés à lui et qui utilisent le temps que Dieu nous a donné pour lui. Il y a une deuxième fausse réaction, et la deuxième fausse réaction est de remplir le temps avec toute chose d'activité. Pas nécessairement des activités mauvaises, mais des activités qui ne servent à rien. Il est toujours le danger de remplir le temps avec toutes sortes de choses. Bien sûr, il y a les exigences que nous avons tous, la vie professionnelle, les études, le travail, les loisirs, les hobbies. Mais on peut exagérer. On peut remplir le temps, les 24 heures que Dieu nous donne chaque jour, et à la fin d'une journée, on dit « Oh, pas de temps pour Dieu, pas de temps pour la parole, pour lire la parole de Dieu, pas de temps pour prier, pas de temps pour travailler pour le Seigneur. J'ai tellement à faire, je n'ai pas du temps pour les choses qui sont vraiment importantes. » J'aimerais lire un verset dans la deuxième épître à Timothée. Deuxième épître à Timothée, nous lisons chapitre 2, le verset 4. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qu'il a enrôlé pour la guerre. Il ne dit pas « Nul homme ne s'occupe pas des affaires de la vie », mais il dit « Nul homme ne s'embarrasse dans les affaires de la vie ». Les affaires de la vie sont là. Les exigences de la vie journalière sont là pour chacun de nous. Les enfants, ils vont à l'école, nous avons nos affaires, le travail, nous avons le ménage, toutes les choses, la famille, tout cela est nécessaire et nous devons être travailleux, zélés aussi dans ces choses, mais il y a le danger que nous sommes emballés, enchaînés par ces choses. Et pour cette raison, l'apôtre Paul nous rappelle de ne pas nous laisser enchaîner ou emballer par les choses de la vie. C'est un danger pour chacun de nous. Les choses de la vie sont importantes, mais on peut exagérer. Nous risquons toujours de faire trop. Et ça, c'est un danger pour chacun de nous. Peut-être nous avons des excuses. Si Dieu me pose la question, qu'est-ce que tu as fait avec le temps que je t'ai donné aujourd'hui? Peut-être nous disons, ah Seigneur, je suis trop jeune. Je ne peux pas utiliser le temps que tu m'as donné. Je suis trop jeune. Un autre dit peut-être, oh Seigneur, je m'excuse, je suis trop occupé. J'ai tellement de choses à faire, je suis trop occupé, je n'ai pas du temps pour toi. Un autre dit peut-être, ah Seigneur, je suis trop fatigué, je suis trop malade. Ou quelqu'un dit, oh Seigneur, je suis justement marié, je suis trop heureux pour avoir du temps pour toi. Un autre dit, je suis trop soucié, je suis trop Et un jour, vous dites peut-être, je suis trop vieux, trop jeune, trop occupé, trop heureux, trop fatigué, trop vieux. Et un jour, il faut dire, c'est trop tard. Quand le jeu que nous venons de parler est fini, est terminé, il est trop tard. Il y a un moment, aussi pour nous les croyants, où Dieu dit trop tard. C'est un moment heureux où le Seigneur Jésus viendra nous chercher auprès de lui. Mais à ce moment, il est trop tard de servir le Seigneur Jésus sur la terre. Trop tard. Le temps pour travailler pour le Seigneur, le temps pour utiliser le temps que Dieu nous donne, le temps est aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, l'année prochaine. Non, c'est aujourd'hui. Il faut commencer aujourd'hui d'utiliser le temps que Dieu nous donne. Il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais trop tard pour servir, pour donner le temps que Dieu nous donne, pour utiliser ce temps pour lui. Un jour, Dieu nous posera une question. Ou plutôt, le Seigneur Jésus nous posera une question. Cet après-midi, nous avons parlé du tribunal de Christ, où nous serons manifestés. Et peut-être Dieu me posera la question, « Alos, qu'est-ce que tu as fait avec le temps que je t'ai donné ? Qu'est-ce que tu as fait ? Combien de temps as-tu tué ? As-tu écrasé ? Combien de temps as-tu utilisé pour toi-même, pour tes affaires, pour la carrière ? Bien sûr, je répète, les choses de la vie quotidienne ont leur place dans la vie de chacun de nous, notre travail, notre famille, Les enfants, ça coûte du temps, c'est normal, il faut prendre ce temps. Mais la question reste, qu'est-ce que j'ai fait avec le temps que le Seigneur, que Dieu m'a donné? Et devant le tribunal du Christ, cette question sera peut-être posée. Et quelle sera ma réponse? C'est une question sérieuse pour chacun de nous. Peut-être quelqu'un se demande, est-ce qu'il est possible de donner 100% de notre temps pour travailler pour le Seigneur Jésus? Et j'aimerais donner deux réponses à cette question. D'un côté, certainement, c'est impossible. À cause des affaires nécessaires, des exigences de la vie. Mais d'un autre sens, il est pourtant possible d'être 100% à la disposition de notre Seigneur, de lui donner 100% de notre temps, même les heures du sommeil, les heures de la nuit. Et j'aimerais lire de nouveau un verset dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Colossiens 3, verset 17. « Et quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Et quelque chose que vous fassiez pendant les 24 heures de chaque jour. Et quelque chose que vous fassiez, même manger, boire, dormir, faites toute chose, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Dans ce sens-là, nous pouvons vraiment donner 100% du temps au Seigneur Jésus. J'aimerais terminer par vous rappeler trois cercles dans la vie du chrétien où nous avons à utiliser notre temps. Le premier cercle, c'est la vie sociale. Cela veut dire, c'est la famille, c'est le conjoint, ce sont les parents, ce sont les enfants, ce sont nos frères, nos sœurs, les frères et sœurs biologiques et spirituels, les amis et tout cela. C'est la vie sociale. Et il faut que nous ayons du temps pour la vie sociale, bien sûr. Il faut utiliser du temps pour ma femme, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes amis. Bien sûr, il faut investir du temps pour cela. Deuxième cercle, c'est la vie professionnelle. C'est les occupations et les affaires de la vie, les soins de la maison, le métier, le travail, l'école, l'éducation et des choses pareilles. Et bien sûr, il faut employer du temps pour cette vie professionnelle. Chacun de nous a besoin d'investir du temps dans ce cadre. Mais troisièmement, il y a les choses qui concernent le Seigneur Jésus et son œuvre. Cela veut dire l'évangile, le témoignage, l'assemblée, les amis, les frères et les sœurs. Tout ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Ce sont trois points dans la vie de chaque chrétien. Maintenant, imaginez un triangle. Il y a un point en haut et il y a deux points en bas. Et il y a les trois lignes. Alors vous avez le triangle, le point en haut et les deux points en bas. Nous avons parlé des trois cercles ou des trois points. Quel est le bon ordre dans la vie du chrétien? Quel point est le point en haut? C'est la vie professionnelle, la carrière que j'aimerais faire, l'argent que j'aimerais gagner. Le Seigneur, il est là. Et la vie sociale, c'est là. Ou imaginez la famille, la vie sociale, c'est le point en haut. Et de nouveau, le Seigneur Jésus, il est en bas à droite. Et la vie professionnelle est en bas à gauche. Si notre triangle de la vie est ainsi, quelque chose ne va pas bien. Quelque chose ne va pas bien. La bonne ordre est la suivante. Le Seigneur Jésus et l'œuvre du Seigneur Jésus en haut. Et lui, il donne la direction au triangle de notre vie. Et oui, la vie professionnelle, c'est nécessaire, c'est important. La vie sociale, la famille, etc., c'est important. Mais le Seigneur Jésus, lui, il est en bas. Si le Seigneur Jésus a la première priorité de ma vie, tout va bien. Il faut que Christ tienne en toute chose la première place. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Que lui, le Christ, tienne en toute chose la première place. Le triangle en haut, c'est le Seigneur Jésus. Et en bas, ce sont la vie professionnelle et la vie sociale. Si notre vie est un cercle comme ça, un triangle comme ça, les choses vont bien. Et cela, chers amis, c'est une question de priorité. Où sont nos priorités? C'est d'ailleurs la grande question dans le prophète Agée. C'est le prophète des priorités. Vous pouvez lire ce prophète. Le livre n'est pas très long, mais il parle des priorités du peuple de Dieu. Mes priorités, tes priorités. Où sont nos priorités? Où est le trésor et le cœur? Si c'est la carrière, si c'est le travail, si c'est l'argent, quelque chose ne va pas bien. Le Seigneur ne tient pas la première place. Même si c'est la famille est très importante. Il faut avoir beaucoup de temps pour la famille. Mais si la famille, si ma femme, si mes enfants, si mes parents ont la première place dans ma vie et le Seigneur Jésus est seulement le numéro 2, quelque chose ne va pas bien dans ma vie. Cet esclave, ce serviteur hébreu, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit dans l'Exode, chapitre 21? J'aime quoi? J'aime mon travail, j'aime ma femme et j'aime mon maître. Non! Il a dit, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je veux te servir. Voilà, ça c'est l'ordre béni. Le Seigneur Jésus, le numéro un, le centre de la vie. Demain, nous aurons l'occasion, Dieu voulant, de lire ce beau verset. Vivre pour moi, c'est Christ. Voilà les priorités de l'apôtre Paul. Vivre pour moi, c'est Christ. Le temps, un don de Dieu. Soyons reconnaissants pour chaque jour que Dieu nous donne. Mais saisissons le temps, utilisons le temps pour lui, pour avoir la communion avec lui et pour le servir. Il est digne que nous lui donnions aussi notre temps.